Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole du Seigneur. Mes amis, s'il faut retenir un thème pour le dimanche d'aujourd'hui, c'est le thème de la conversion. Le Seigneur y insiste dans l'évangile d'aujourd'hui. D'ailleurs, tout le dimanche de la troisième semaine de Pâques est construit dans cette optique-là. Le temps de carême comme tel est un appel à la conversion, au changement intérieur, à la transformation spirituelle. Et quand on réfléchit de plus près, la conversion c'est quoi? Mais en fait, la conversion est un rappel à aller en profondeur de soi-même pour aller faire face à sa propre conscience. Pour chercher à se repentir, à vivre la pénitence, à vivre une correction intérieure, à corriger des tendances déréglées en nous, pour devenir de meilleures personnes et nous tourner davantage vers le Seigneur. Il paraît que la petite Bernadette, quand elle a vu la Vierge, le jour après, elle ne cessait de répéter aux gens de son village « pénitence, pénitence, pénitence ». Pénitence, c'est quoi? Mais c'est en fait le refus de nous accrocher à des tendances qui nous conduisent vers la destruction des autres, vers le mal. Pénitence, c'est le renoncement, c'est l'effort de renoncer aux choses qui nous éloignent de Dieu et qui nous éloignent des autres. Voilà en quoi consiste la conversion. Finalement, la conversion, c'est accomplir un tournant dans notre existence. On accomplit ce tournant en pensant et en écoutant l'évangile de Dieu. On accomplit ce tournant en essayant de corriger quelque chose de notre manière de prier, quelque chose de notre manière de vivre, quelque chose de notre manière d'agir, quelque chose dans les relations avec les autres. La conversion, mes amis, est un appel intérieur qui veut un retournement pour que nous nous détournions de nous-mêmes et que nous nous tournions davantage vers Dieu, vers son amour, vers sa miséricorde, en vue finalement d'être portés dans cet élan-là de l'amour de soi, l'amour qui se donne sans relâche. Mais quand on réfléchit, on se dit comment est-ce que le Seigneur est arrivé à parler de la conversion. Voilà qu'on lui rapporte deux faits de chronique qui ont eu lieu durant son existence. Voilà que Pilate avait fait massacrer des Galiléens durant leur sacrifice. Et les gens se disaient, mais si ces gens-là ont connu ce sort-là, c'est qu'ils ont fait un grand péché, c'est qu'ils reçoivent une punition de Dieu, c'est qu'ils sont châtiés par Dieu. Alors Jésus dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Plutôt, il utilise cet événement tragique pour interpeller son auditoire. Il faudrait plutôt aller à l'intérieur pour se convertir, se corriger, se tourner davantage vers Dieu. Et lui-même rapporte un autre événement tragique. Il dit, vous vous rappelez les 18 personnes qui ont été tuées par l'écroulement de la tour de Siloé. Alors, est-ce que ces personnes-là qui se sont écroulées, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Non. Alors, en fait, quand nous vivons ces moments tragiques autour de nous, quel est le mouvement intérieur qui nous arrive? Comment est-ce que nous percevons les choses? Est-ce que nous accusons Dieu de tout ce qui arrive dans le monde, des événements catastrophiques, les événements qui nous ébranlent en nous, les catastrophes naturelles, etc. Comme par hasard, quand moi je préparais cette homélie, je tombe sur une nouvelle très récente où on disait, voilà, la nuit du 18 au 19 février, il y avait une famille canadienne en voiture sur l'autoroute au Texas, l'autoroute 35, au sud de Austin. Du coup, une voiture qui vient dans le sens contraire, imaginez-vous, sur l'autoroute. Accident. 4 Canadiens morts sur place, dont un bébé de 16 mois. Alors tu te dis, mais comment ces choses-là peuvent arriver? Alors tu entres en profondeur de toi-même, tu te dis, mais moi aussi je pouvais peut-être me trouver sur cette route-là. Tu regardes, alors cet événement doit nous aider à aller en profondeur, nous rendre compte de la précarité de la vie, nous rendre compte de nos limites humaines et nous dire qu'en fait, si nous avons l'occasion de continuer à vivre, à respirer, nous devons quelque chose à Dieu. Nous devons réfléchir, voir le Seigneur attend de nous quelque chose de plus fort. Si ces événements-là nous arrivent, n'est-ce pas une interpellation pour nous, pour que nous nous tournions davantage vers Dieu, pour que nous soyons plus sensibles aux personnes qui nous entourent, pour que nous ne soyons pas indifférents devant les catastrophes, les souffrances dans le monde entier. Le Seigneur nous invite à la conversion, le Seigneur nous invite au changement intérieur, d'être proche des personnes continuellement. Dimanche dernier, je vous parlais aussi du cyclone d'une force 5 qui a pratiquement ravagé les îles Fidji. Alors, il y a tellement de souffrances, tellement de biens qui ont été perdus, il faut des millions et des millions pour reconstruire certaines choses. Alors, tu regardes tout ça, tu te dis, voilà, un peuple qui fait face à cette situation-là, je pouvais me trouver sur une des îles Fidji. Mais je ne suis pas là. Je dis, mais si ces choses-là arrivent, il y a un message que moi je dois porter. Mais c'est voir surtout se poser la question qu'on doit se poser, c'est quel est ton mouvement intérieur quand tu fais face à ces événements tragiques? Quelle est l'image de Dieu que tu circules, que tu véhicules en toi quand tu fais face à ces choses qui nous interpellent tant? Quel est le mouvement que tu fais? Encore une fois, parlant de réfugiés, tu peux regarder dans le monde entier le flot de réfugiés, les guerres sanguinaires, les guerres qui ne cessent de tuer des personnes. Où est Dieu dans tout ça? Ce sont des questions que les gens peuvent se poser, se demander, mais comment trouver la solution? Comment on pointe du doigt Dieu? Alors, quel est notre mouvement intérieur quand nous vivons ces genres de choses? Ce que le Seigneur voudrait nous dire tout simplement, c'est qu'il ne faut pas considérer ces personnes qui sont victimes des accidents, victimes des guerres, qui sont dans des camps de réfugiés, qui vivent des moments difficiles, le cyclone, l'accident sur une route. Il ne faut pas les considérer comme des personnes qui sont plus coupables que nous, qui des personnes qui sont plus pécheresses que nous. Et ce qu'il faudrait regarder, plutôt sans juger personne, c'est regarder ces événements et interroger notre cœur, interroger notre vie, et comme je l'ai dit, voir le mouvement intérieur qui s'est fait en nous. Ce que le Seigneur nous attire, ça à quoi il attire notre attention, c'est que nous pensions à nous ouvrir davantage à Dieu et à nous ouvrir davantage aux autres face à tous ces événements qui nous entourent. Je regardais, vous l'avez lu sans doute dans le journal Le Droit du vendredi, il y avait en première page, il y avait la photo du député Maurice Le Bélanger, parce qu'il avait reçu un prix, le prix Grand Maître. Mais on raconte, on rappelle ce qu'on avait déjà publié à l'automne, qu'on lui avait diagnostiqué avec une maladie pratiquement incurable, et depuis lors, il dégénère. Alors quand tu lis ça, comment tu réagis? Parce que ce qui lui est arrivé, ça peut m'arriver, ça peut nous arriver. Mais alors, comment tu réagis dans ta spiritualité chrétienne? Comment tu portes ces bagages-là? Comment tu portes ce poids-là? Une chose est sûre, c'est que ces événements-là, ces mauvaises nouvelles, doivent nous conduire à nous ouvrir davantage, à être davantage sensibles aux personnes, à savoir prier pour les autres, à savoir porter les souffrances des autres, savoir être compatissant, compatissante, partager, être comme les lectures d'aujourd'hui nous disent, eh bien patient comme Dieu, ouvrir son cœur et vivre la miséricorde de Dieu. Parce que cette année, en fait, c'est l'année de la miséricorde, ce carême que nous vivons, c'est un carême qui est sous le sceau de la miséricorde. Alors notre vie telle que nous la vivons aujourd'hui, nous devons comprendre que nous devons nous plonger davantage dans cette mer de la miséricorde de Dieu. Tous les événements qui nous arrivent, toutes les personnes qu'on voit, les événements tragiques, on doit les habiller, les porter avec le cœur miséricordieux de Dieu. On regarde la suite de l'évangile telle qu'elle se termine, on nous présente le visage de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que dans les événements tragiques, il ne faut pas perdre espoir? C'est à cause de l'image de Dieu qui nous est présentée. Première image dans la première lecture, Moïse, il rencontre Dieu et Dieu lui dit, « Je suis descendu parce que j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai vu mon peuple souffrir. » Il est dans l'esclavage. Il reçoit des coups de fouet. Il ne mange pas assez. Alors je suis venu intervenir pour lui donner un coup de main. Mes amis, notre Dieu à nous, le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, le vrai Dieu, est un Dieu qui est au cœur de nos vies. Ce n'est pas un Dieu caché au-delà des nuages. C'est un Dieu qui se penche, qui descend dans notre vie. Alors, tu as vécu des événements tragiques dans ta vie, tu as des choses qui te bouleversent, tu as des choses qui t'ont bouleversé dans la vie. Une chose est sûre, le Dieu qui se présente à nous aujourd'hui est un Dieu qui dit, je suis au courant de tes souffrances. Je sais ce que tu souffres, je sais comment ton cœur est en train de passer des moments difficiles aujourd'hui. Je suis là pour toi, je suis descendu. Notre Dieu à nous est un Dieu qui descend, est un Dieu qui vient nous toucher, est un Dieu qui est proche de nous. Je regardais comment ça se fait que moi je suis tombé sur cette image-là des gens, les Canadiens, d'ailleurs on disait qu'ils sont des Kitchener, les Canadiens qui sont décédés au Texas. Comment ça se fait que par hasard je suis tombé sur ces gens-là? Peut-être c'est encore la providence, je vous le partage pour qu'on le porte dans nos prières, qu'on porte ces familles-là dans nos prières, qu'on porte ces bébés-là qui est mort de 16 mois, qu'on le porte dans nos prières, voyez-vous. L'autre image que je trouve belle, c'est celle justement du figuier. C'est-à-dire le figuier qui est là, 3 ans, ça ne porte pas de fruits. Alors, le responsable, il dit, écoutez, on va couper. Moi, si je plante des arbres dans mon jardin, c'est pour que ça donne des fruits. 3 ans, ça n'a rien donné, coupez-le. Alors, maître, peut-être qu'on peut attendre. Peut-être l'année prochaine, on va faire notre effort, on travaillera autour, on mettra du fumier. Puis le maître dit, ok, on va patienter. Ça, c'est encore l'image de Dieu. Pourquoi est-ce que je vis encore aujourd'hui? Pourquoi est-ce que demain, je me lèverai encore du lit? Pourquoi est-ce qu'après demain, je serai encore vivant? Est-ce que je suis là pour, par hasard? Dieu me donne tout ce temps. Dieu me donne ces mois. Dieu me donne ces années au-devant de moi pour que je me tourne davantage vers lui, pour que je me convertisse davantage. La conversion, ce n'est pas une affaire qui s'est faite dans un jour. C'est toute la vie qu'on doit se tourner complètement vers Dieu, continuellement, continuellement, jusqu'à ce que nous vivions cette intimité plénière avec lui. Alors, si nous avons au-devant nous toutes ces opportunités, c'est pour que nous devenions de meilleures personnes, c'est pour que nous nous tournions davantage vers les autres, qu'on essaie de les aider. Voilà pourquoi Dieu est patient avec toi. Pourquoi Dieu est patient avec moi? Voilà pourquoi Dieu est patient avec chacune d'entre nous. C'est pour nous donner cette opportunité-là de grandir dans son amour, de grandir dans l'amour pour le prochain. Je me disais, comme conclusion, retournons au buisson ardent. Ce qui est frappant dans le buisson ardent, c'est de voir que le feu prend sans consumer le buisson, justement. Les arbres, les branches restent intactes. Ça, c'est la force de l'amour de Dieu. Le feu, c'est l'amour de Dieu qui nous attire, qui nous brûle, qui nous transforme de l'intérieur, qui fait de nous de nouvelles personnes. Mais ce feu-là ne nous consomme jamais dans le sens que, Dieu ne veut pas qu'on se perde en lui. Dieu ne nous prend pas et puis nous sommes perdus en lui, on ne devient rien. Dieu ne nous anéantit pas. Quand nous entrons en relation avec Dieu, nous avons son feu, mais Dieu veut qu'on reste cœur à cœur, du je au tu. C'est toujours une relation avec Dieu. Dieu respecte ce que nous sommes, Dieu respecte notre être, Dieu respecte notre liberté. Voilà pourquoi son feu d'amour qui est si grand, il ne nous brûle pas, il ne nous consume jamais. Parce qu'il veut garder cette relation avec nous. Alors dans la messe d'aujourd'hui, nous allons aller vers lui avec l'Eucharistie, la communion qu'on va recevoir maintenant, que cette communion nous apporte ce feu intérieur brûlant, mais qui nous transforme, qui nous change, qui nous convertisse, qui nous tourne davantage vers Dieu, davantage vers les autres, pour qu'au jour le jour, durant toute notre vie, nous ne cessions de croître pour devenir de meilleures personnes. Amen.